Jouez à Cyberpunk 2077. Conduisez des bolides, combattez des corporations et améliorez votre corps.
On va s'amuser un peu.
Cyberpunk 2077. Achetez-le dès aujourd'hui sur Xbox, PlayStation, PC et Stadia. PEGI 18.
Ah 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane Bern. Je suis particulièrement fier de vous accueillir aujourd'hui dans un numéro d'Historiquement Vôtre qui s'annonce sulfureux, n'est-ce pas Mathieu ?
Pour le moins, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Oui, chaque après-midi, vous le savez, on aime réunir avec Stéphane trois personnages de l'histoire que les siècles séparent, mais qu'un point commun relie. Aujourd'hui, leur point commun, c'est d'avoir fait scandale avec une peinture comme Gustave Courbet, avec un livre comme Boris Vian, ou avec une simple phrase ambiguë comme Stéphane.
Dès que l'émission se termine ce soir, je m'en mets partout.
Mais de quoi ? On ne le sait toujours pas. Nous partons aujourd'hui à la rencontre des scandaleux de l'histoire, Stéphane.
Oui, vous l'avez dit, Mathieu. On va parler évidemment de Gustave Courbet, mais aussi de Boris Vian, dont le livre sous pseudo « J'irai cracher sur vos tombes » a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Et de votre côté, vous avez dégoté un scandaleux plus proche de nous.
Oui, Stéphane, si vous aimez les pubs pourries, sans relief, ni humour, ni âme qu'on nous sert aujourd'hui à la télé...
Votre
alors vous risquez d'être choqué par mon personnage du jour, Oliviero Toscani, génie de la photo et inépuisable créateur de polémiques depuis 1989 et sa fameuse campagne Benetton où on voyait un curé galocher une nonne.
Ah mes aïeux.
Signez-vous Stéphane.
Alors au sommaire également Mathieu de cette merveilleuse émission, nous avons des chroniques fabuleuses. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui bonjour messieurs, alors pas forcément bonjour. Des grandes de ce monde aujourd'hui, et puis est-ce que c'est vous qui avez investi la dimension sulfureuse de notre émission? Eh bien moi, il ne m'a pas échappé que nous étions aujourd'hui le 11 novembre et que je ne pouvais pas ne pas évoquer d'une manière ou d'une autre la Grande Guerre, et je vais le faire en vous racontant l'histoire de Clémentine Delay, la célèbre femme à barbe qui était la marraine et la mascotte des poilus dans les tranchées.
Eh bien, je l'ignorais, figurez-vous, je l'ignorais, et j'ai hâte de découvrir le portrait de cette femme à barbe, moi qui aime la barbe.
Toutes les Clémentines ne se ressemblent pas, évidemment. Clémentine, avec vous également.
Merci, c'est gentil de le signaler, Stéphane.
Non, mais je le dis, on est à la radio, il faut bien vous donner...
Mais je ressemble un peu, Clémentine Delay.
Enfin, sans la barbe, quand même.
Par les rondeurs, sinon par la barbe, vous verrez.
Ok. Alors, David Castello-Lopez est avec nous également.
Oui, tout à fait, Mathieu, Stéphane, vous me disiez l'autre jour, David, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait les origines d'un accessoire de papeterie, ça nous manque.
On a dit ça, et
je vous ai répondu, bah d'accord, ok, je vais voir ce que je peux faire. Parce que je suis comme ça, moi j'aime bien vous faire plaisir. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler des origines du Tipex. Que certaines personnes appellent
super.
Personnes appellent ça le blanco ou simplement le blanc. Cette petite
On est la dernière génération à avoir utilisé le Tipex. Est-ce que les jeunes aujourd'hui utilisent le Tipex? Ils sont sur leur ordi en cours.
Et
c'est fini.
Je ne sais pas si les jeunes utilisent le Tipex. En tout cas, je peux vous dire que j'en ai acheté pour cette chronique et vraiment il y en a encore beaucoup.
Mais le papetier a été sidéré de vous voir acheter du Tipex.
Vous êtes sûr que c'est vous voulez pas une calèche?
Quand on prend les cours à la fac, on a besoin.
Quand on prenait les cours à la fac, aujourd'hui vous prenez. Les jeunes étudiants tapent sur leur ordinateur directement,
et
ça vous expliquerait.
Dans Enfermé dehors, Albert Dupontel s'en sert pour se blanchir les dents.
Ça ne marche pas, il faut le dire. Avec nous également en studio, Stéphane, Olivier Pouls, le roi de la provoque, qui après
il nous emmène à Bordeaux là.
Après la tarte au citron que je déteste, un autre dessert que je déteste.
Non.
Allez-y.
Vous n'aimez rien, Mathieu.
Dites-le-nous.
Pourquoi vous détestez?
Parce que c'est pas bon, tout simplement. Dites-le-nous.
Moi, je pensais qu'on était vraiment amis et que culinairement parlant, vous étiez respectable. Mais alors là, franchement.
Donc vous nous parlez du cannelé.
Ben oui, quand on va à Bordeaux, qu'est-ce qu'on ramène?
C'est bon.
C'est cannelé. Évidemment. Alors, avec un ou deux N, je vous dirai aussi.
Parce qu'en plus, j'ai un doute là-dessus.
Oui.
Et n'oublions pas, les amis, notre quiz, l'impitoyable séquence Burn to be Alive, ce moment de vérité où les masques tombent. Qui est un vrai historien dans l'équipe? Qui fait semblant? Répond vers 5h-10. Pour l'heure, entrons, si j'ose dire, dans le vif du sujet avec l'histoire d'un des tableaux les plus scandaleux de l'histoire, l'origine du monde de Gustave Courbet.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Quand j'ai dit à Stéphane qu'aujourd'hui nous allions évoquer l'œuvre de Courbet, il m'a dit « Oh non, je préfère pas, c'est quand même un concurrent, à la fois en télé et sur le secteur des vérandas ». Je l'ai rassuré en lui expliquant que le Courbet auquel je pensais était le peintre du 19e siècle.
Oui, prenez-moi pour un imbécile, mon cher Mathieu.
Jamais.
Oui, c'est un peintre, évidemment. Et quel peintre ! Il appartenait au faiseur de chair, disait Émile Zola. En osant peindre l'intimité d'une femme dans l'origine du monde, Gustave Courbet s'est incontestablement imposé comme l'un des maîtres du réalisme. Et son caractère y est pour quelque chose, car ce provocateur à la voix de tonnerre n'a jamais été de ceux qui courbaient l'échine face à l'académisme et la morale. Gustave Courbet brandit volontiers le drapeau de l'insoumission et s'attaque à la bienséance factice du Second Empire, quitte en effet à provoquer quelques scandales. À 34 ans, l'originaire d'Ornans a fait la rencontre d'un riche montpelliérain qui est devenu son principal mécène. Bancal jusque-là, la carrière artistique de Courbet est désormais lancée. Il acquiert vite une solide réputation qui dépasse les frontières impériales de Napoléon III. Dès 1860, ses œuvres se vendent cher et trouvent bonne place au Salon, la manifestation artistique de référence. C'est là qu'il entame une série de nus féminins. Et les derniers tableaux de Gustave Courbet font jaser le tout Paris. Car un de ces nus, Vénus poursuivant Psyché de sa jalousie, a été censuré par le Salon de 1864, jugé beaucoup trop indécent. Et oui, bien loin de représenter les douces nymphes issues de la Bible ou de la mythologie, Gustave Courbet a transgressé les règles académiques. Il a osé peindre des femmes nues dans une position lascive. La représentation sans équivoque d'un amour lesbien. Et à l'époque, quel affront! L'homosexualité est un redoutable interdit. Alors, le grand provocateur fait mine de s'assagir. Deux ans plus tard, Gustave Courbet montre patte blanche et propose au Salon deux tableaux qui enthousiasment un jury qui se veut hautement respectable. Courbet redore son image, mais certains ne sont pas dupes. Émile Zola, par exemple, qui a ajouté une nouvelle corde à son art qui s'illustre en tant que critique d'art, fustige l'hypocrisie du peintre. Sa femme au perroquet a beau être une étude de femme nue réussie, elle est bien trop convenable et ne lui ressemble pas vraiment. Où est donc passé l'incorrigible insoumis? Les peintures sans faux semblant de Courbet choquent autant qu'elles ravissent et finissent par piquer la curiosité d'un certain Khalil Bey. Ce diplomate turc qui est installé dans la ville Lumière est une figure controversée des sphères mondaines parisiennes, mais surtout, c'est un grand amateur d'art. Il a constitué une vaste collection et dans son hôtel fastueux du boulevard des Italiens, des œuvres de Théodore Rousseau ou Eugène Delacroix ornent les murs. Alors Khalil Bey compte bien agrémenter sa décoration de quelques peintures érotiques signées Gustave Courbet. Le dandy ottoman s'aventure loin de ses quartiers chics pour rencontrer le maître dans son atelier de la rue d'Hautefeuille, au cœur du Paris bohème. Pour 20 000 francs, commande est passée et à l'été 1866, Gustave Courbet s'exécute. Cette fois-ci, plus de limites. Il livre à Khalil Bey de sulfureux tableaux empreints de réalisme. Le premier, le sommeil, représente deux jeunes femmes dans le plus simple appareil étendues sur un lit après des ébats passionnés. La seconde peinture, quant à elle, a 100% de chances de bouleverser les mœurs de l'époque. Son sujet est si scandaleux qu'elle est condamnée à la clandestinité. Et oui, l'histoire de l'origine du monde commence bel et bien dans l'ombre, loin des regards innocents. Car Khalil Bey a bien pris soin de cacher sa nouvelle acquisition. Le mystérieux tableau est recouvert d'un tissu vert et exposé à l'écart dans un petit cabinet de toilette. C'est en soulevant l'étoffe que les invités pourront admirer cet objet de scandale, yeux écarquillés et bouche bée. Car la surprise est de taille, jamais on n'avait vu pareil tableau. Sur cette petite toile de 46 cm sur 55, Courbet a osé peindre l'immontrable. Le maître du réalisme a manié les pinceaux pour représenter le corps d'une femme nue étendue sur des draps blancs. Rien d'inédit jusque-là, sauf que cette fois-ci, Courbet s'est concentré sur une partie du corps bien précise. Un sexe féminin exposé sous toutes ses coutures, le plus célèbre entrejambe de l'histoire de la peinture. Les rares voyeurs qui ont l'occasion d'apercevoir la toile peinent à trouver les mots pour la décrire avec justesse. La bonne conscience morale empêche d'employer des mots trop crus. Prenons l'exemple de l'écrivain Maxime Ducamp qui écrivit à propos du tableau « Gustave Courbet a négligé de représenter les pieds, les jambes, les cuisses, le ventre, les hanches, la poitrine, les mains, les bras, les épaules, le cou et la tête. » Une habile courbette pour éviter d'écrire les mots qui fâchent. Le lecteur n'a plus qu'à déduire de cette énigme le véritable objet du tableau, le sexe féminin. Pendant 3 ans, l'origine du monde reste à l'abri des regards indiscrets dans l'hôtel des grands boulevards. Mais le train de vie princier de Khalil Bey, dont le budget quotidien s'élève à 14 000 francs, s'arrête net en 1869. L'habitué des tapis verts est ruiné par le jeu. Il doit vendre aux enchères son impressionnante collection d'œuvres d'art, 109 lots, adjugés et vendus. Sauf que, le jour des enchères, nulle trace du sulfureux tableau. Mais où est donc passée l'origine du monde ?
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Stéphane Bern nous raconte cet après-midi Gustave Courbet, dont un tableau, évidemment, a fait scandale, l'origine du monde, que tout le monde connaît. Et vous êtes interrompu, Stéphane, pile au moment où vous nous disiez qu'on avait perdu toute trace de ce tableau. Il est quand même pas chez vous, dites-moi Stéphane, c'est vous qui avez enchéri.
Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé au musée.
En tout cas,
bien vu. Il est au musée d'Orsay.
Oui, bien sûr.
Je vous disais donc que Khalil Bey, le propriétaire de l'origine du monde, le sulfureux tableau de Gustave Courbet, est ruiné. Il a vendu ses œuvres, pris ses clics et ses claques et un billet de retour pour Constantinople, actuel Istanbul. Mais on a perdu donc toute trace de l'origine du monde, pendant 20 ans en tout cas. On ne verra réapparaître la toile au monde Vénus qu'en 1889 chez un antiquaire parisien. Et là aussi, elle est masquée par une autre peinture, le château de Blonay, signé Gustave Courbet. Entre-temps, le maître réaliste a disparu. En 1877, Courbet est mort en Suisse, où il a été contraint de s'exiler après la Commune de Paris. Dans la guerre qui a opposé la capitale à Versailles, Gustave Courbet a joué un rôle politique qui lui a valu quelques soucis. On l'a rendu notamment responsable de la démolition d'un haut symbole impérial, la colonne de la place Vendôme. Verdict, Courbet doit financer sa reconstruction. Chose impossible, même pour un peintre fortuné. Les œuvres scandaleuses du maître ont alimenté la rumeur et choqué les âmes pures, mais c'est bien son engagement politique qui a entraîné sa chute. L'origine du monde survit à son maître, et quand la vie de Courbet s'achève, son odyssée clandestine ne fait que commencer. La toile atterrit entre les mains d'un collectionneur hongrois, qui cède bien vite cette œuvre embarrassante à un aristocrate de Budapest, le baron Advani. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la petite toile est cachée dans un coffre de banque, mais elle est volée par les pilleurs soviétiques qui l'emmènent probablement à Moscou. Dans les années 50, après que son propriétaire ait remué ciel et terre pour récupérer ses biens, l'origine du monde trouve nouvel acquéreur. Le psychanalyste français Jacques Lacan, qui l'achète pour la modique somme d'1,5 million de francs et la cache derrière un trompe-l'œil. Et petit à petit, l'œuvre sort enfin de la marginalité. Elle est brièvement dévoilée au public new-yorkais en 1988, mais il faut attendre 1995 pour que l'origine du monde soit enfin exposée au grand jour. Depuis lors, elle trône en bonne place au musée d'Orsay. Et pourtant, il arrive encore que l'origine du monde déclenche des polémiques, comme en 2011, quand le réseau social Facebook désactive tous les comptes d'utilisateurs qui postent l'image du tableau. Alors, œuvre d'art ambitieuse ou tableautin pornographique, quoi qu'il en soit, plus de 150 ans après sa création, l'œuvre la plus célèbre et la plus scandaleuse de Gustave Courbet n'a pas fini de faire parler.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer de parler de l'origine du monde de Gustave Courbet, nous sommes avec l'historien de l'art Thomas Schlesser. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Thomas Schlesser, vous êtes directeur de la Fondation Hartung Bergmann, professeur à l'École Polytechnique et auteur de nombreux ouvrages sur Gustave Courbet, parmi lesquels Journal de Courbet chez Azan et Courbet, un peintre à contre-temps aux éditions Scala. L'origine du monde est sans doute le tableau le plus connu et le plus controversé de Courbet. Il le savait en le peignant qu'on parlerait autant de ce tableau, peut-être pas encore aujourd'hui si. Et il faut bien le rappeler, c'était pas un tableau destiné à être public à l'origine. Est-ce qu'il était conscient, Courbet, que ce tableau pouvait choquer ?
La meilleure preuve qu'il en était conscient, c'est que précisément, il ne l'a pas rendu public à l'origine parce que C'eût été une bombe tellement, avec une, un tel pouvoir de déflagration, que je pense que il a quand même évité ce scandale ultime après de très très nombreux moments de tapage dans sa carrière. Je pense qu'au fond, l'origine du monde, c'est un peu une bombe à retardement, si vous me permettez l'expression. Et je suis persuadé, parce que ça, on en a souvent des traces chez Courbet, qu'il avait bien conscience que quelques années plus tard, en différé, si je puis dire, eh bien, l'œuvre atteindrait un niveau de notoriété tout à fait extraordinaire, mais pour la postérité.
Petit point histoire de l'art, Thomas Schlesser, on est sûr que c'est, enfin on est sûr, est-ce que c'est vraiment la première fois qu'un sexe féminin est représenté comme ça en peinture sur un tableau?
Alors, à ma connaissance, en tout cas, avec un tel cadrage, bien évidemment, naturellement, vous le savez bien, il y a déjà eu des sexes de femmes qui ont été représentés dans l'histoire de l'art, même certains d'entre eux de façon assez provocante, puisque, par exemple, chez Goya, on voit une forme de pilosité, donc avec un aspect très très concret, très trivial, mais la manière dont Courbet procède est extraordinairement originale et audacieuse.
Visiblement, les critiques d'art étaient très embarrassés à l'époque, puisque on ne pouvait pas nommer la chose, et donc c'était difficile de critiquer un tableau qu'on ne pouvait pas nommer.
C'est ça, c'était un petit peu, j'aurais tendance à dire que c'était une sorte de secret de Polichinelle, hein, l'origine du monde, c'est-à-dire que beaucoup de critiques, d'écrivains étaient au courant de son existence, mais n'y faisaient référence que par allusion. Même chez les caricaturistes de l'époque, il y a un dessin très amusant, on voit Courbet entouré de ses tableaux, et à la place de l'origine du monde, eh bien, il y a simplement une feuille de vigne. Donc c'est le tableau de l'époque, et tout le monde a envie, plus ou moins, de faire savoir qu'il est au courant de la chose, mais sans véritablement la nommer.
Est-ce qu'on sait, Thomas Schlesser, qui est la femme représentée sur le tableau, le modèle?
Alors, vous le savez très certainement, ça a été vraiment un grand sujet de curiosité pour les historiens de l'art au fil des années, au fil des décennies. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que enfin on est certain du modèle. Ah. Les historiens de l'art s'accordent, disons, à 99% de certitude à dire que c'est Constance Queniaux, qui était donc une danseuse de l'opéra. Et on doit cette découverte non pas à un historien de l'art, mais à un spécialiste d'Alexandre Dumas-fils dans un ouvrage récent, où en compulsant des archives, eh bien il a pu être certain de cette identité, et donc ça a été une découverte importante, parce que c'était une énigme qui occupait beaucoup d'esprit.
Alors, on va continuer à parler des scandales de l'histoire et de Gustave Courbet en particulier avec notre invité Thomas Schlesser dans un instant sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Ils ont choqué leurs contemporains, c'est le point commun de nos trois personnages cet après-midi. On parle de Gustave Courbet avec vous, Thomas Schlesser. Est-ce que c'est le seul peintre Courbet qui transgresse et qui fait scandale à son époque, ou il y en a d'autres?
Non, bien sûr que non, il y en a d'autres, mais je dirais que Courbet est véritablement celui qui leur sert de chef de file, si je puis dire. Ou disons, Courbet est celui qui utilise le scandale comme une sorte de moteur dans sa carrière. Néanmoins, il y a d'autres artistes qui lui sont contemporains et qui font également beaucoup parler d'eux. Je vais vous en prendre un très connu également, c'est Édouard Manet. Manet qui est d'une génération juste après celle de Courbet, mais quand Courbet est en train de peindre l'origine du monde, Manet rivalise d'audace, puisque lui-même peint l'Olympia ou le Déjeuner sur l'herbe.
Le Déjeuner sur l'herbe, c'est moins chaud quand même, même si la femme est nue.
Ne croyez pas cela, parce que le Déjeuner sur l'herbe, c'est une transgression assez étonnante, où il y a une femme nue au milieu d'hommes habillés dans la campagne. Et par conséquent, même si évidemment il n'y a pas cette même radicalité qu'avec l'origine du monde, parmi les œuvres de l'époque, c'est véritablement un coup de tonnerre.
Ce qui est assez étonnant, Thomas Schlesser, c'est que voilà tous ces peintres qui veulent absolument paraître au salon, qui était au fond la présentation de tous les tableaux à l'époque, mais qui était assez académique. À la fois, ils veulent choquer et en même temps, ils veulent être reconnus sur le plan académique. Comment vous expliquez cette contradiction qu'avaient les peintres au 19e siècle?
Je dirais que c'est pas tout à fait une contradiction, si vous permettez, Stéphane. C'est une tension entre, d'une part, une nécessité qui est celle de se faire reconnaître, également de vendre, puisque il faut bien manger quand on est peintre. Et d'un autre côté, le désir d'affirmer une individualité et une liberté. Et je dirais même que, vous savez, la porosité entre ceux qu'on considère comme académiques ou ceux qu'on considère comme avant-gardistes est beaucoup plus profonde qu'on l'imagine. Il y a des artistes académiques qui parfois ont des accès d'audace qu'on ne soupçonne pas. Donc en réalité, il y a comme ça une oscillation, une sorte de balancement entre académisme et modernité qui mérite beaucoup de nuances. Et Courbet s'inscrit complètement là-dedans. Il est tout à fait capable parfois de concéder des choses au bon goût de l'époque pour se faire remarquer, pour recevoir des commandes.
On est bien d'accord, vous parlez du côté provocant de Courbet, que l'Origine du Monde, en l'occurrence, est un tableau de commande. Sans Khalil Bey, pas d'Origine du Monde, ou bien il avait envie de faire ce genre de tableau de toute manière?
Pour être tout à fait exact, la commande de Khalil Bey portait sur une autre œuvre dont Khalil Bey voulait une copie. Et l'Origine du Monde est en effet une œuvre qui est spécifiquement destinée à Khalil Bey. Mais le sujet lui-même, c'est la trouvaille de Gustave Courbet. C'est lui qui décide de peindre ce sexe de femme en cadrage serré. Donc c'est bel et bien l'inventivité de Courbet qui préside à cette composition et non pas une commande au sens strict du terme.
Gustave Courbet est originaire du Doubs, je crois que vous l'avez dit, Stéphane. Il a toujours voulu être peintre, c'était une vocation.
Alors en fait, ses talents de peintre commencent à se manifester au moment de l'adolescence, dans les années 1830. Figurez-vous que c'est un père au petit séminaire qui l'initie au dessin, qui s'appelle Claude-Antoine Beau, et qui restera un ami de Courbet. Ce que je trouve amusant dans cette histoire, c'est que Courbet va être un anticlérical chevronné, militant, mais la naissance de sa vocation, elle vient d'un homme de foi, précisément.
C'était aussi un homme engagé, Gustave Courbet. Il était contestataire sous le Second Empire, jusqu'à la Commune de Paris, qu'il contraint de s'exiler en Suisse. Il meurt dans quelles circonstances? Il est abandonné de tous ou comment se passe sa fin?
C'est très triste, la fin de Courbet. Pour le petit détail dramatique, on peut dire qu'il est veillé par son père, Régis, qui lui survit. Et en effet, il est en exil parce que il a des problèmes financiers, vous l'avez dit Stéphane, à cause du remboursement auquel il est acculé de la colonne Vendôme. Et par conséquent, il meurt très, très isolé, non loin de son doux natal, puisqu'il est en Suisse, donc pas très, très éloigné, mais néanmoins de l'autre côté de la frontière. La jolie anecdote, c'est que il meurt le 31 décembre 1877, et c'était juste une semaine avant qu'il doive rembourser la première traite de la colonne Vendôme.
Thomas Schlesser, depuis 2013, vous militez en faveur de l'entrée de Gustave Courbet au Panthéon. Pourquoi ?
Alors, il y a plein de raisons à ça. La première, c'est que d'abord, il y a pour ainsi dire, aucun peintre au Panthéon. Il y en a un, mais qui est tout à fait inconnu et qui était un peintre napoléonien. Et donc, je pense qu'il serait vraiment nécessaire qu'il y ait au moins un artiste digne de ce nom qui entre au Panthéon. L'autre chose, c'est que je trouve que Courbet, aujourd'hui, représente quantité, j'aime pas tellement le mot valeur, mais en tout cas, matérialise des grands enjeux du monde contemporain. C'est un grand amoureux de la nature, c'est quelqu'un qui a milité pour le progrès social, pour la convergence entre les marges et la périphérie, entre les marges et le centre, pardonnez-moi. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment, qui mériterait d'être au Panthéon. Et puis, comme c'était un personnage sonore, quelqu'un avec un énorme ego, je trouve que dans ce temple un peu
ce
froid
temple de
la
l'ego,
République,
oui.
Il mettrait un peu d'ambiance, si vous voulez.
En tout cas, merci Thomas Schlesser. Je rappelle deux de vos ouvrages, parce qu'il y en a plus d'un, consacré à Courbet, Journal de Courbet chez Azan, et Courbet, un peintre à contre-temps aux éditions Scala, et votre dernier livre, Faire rêver, aux éditions Gallimard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de l'Origine du Monde, ce tableau qui a fait scandale, de Gustave Courbet.
Merci.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Oui, dans Historiquement vôtre, vous le savez, on raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle, elle nous raconte des belles histoires. Ah, voilà, on aimerait la voir à la veillée le soir, en train de nous raconter la vie des femmes à barbe. Enfin, voilà, oui. Clémentine Portier-Kaltenbach.
Je pense que vous vous endormiriez assez rapidement, oh, Stéphane.
Mais jamais avec quel bonheur, quel bonheur. Non, de écoutez, s'endormir par vos récits.
Avant d'en dire trop, allez regarder sur Internet.
J'y suis.
Ma belle Clémentine Château, alias Clémentine Delay, hein, parce que c'était une robuste vosgienne. Hein.
Oui, c'est vrai que les photos ne laissent pas de place au doute. Hein.
Elle est née le 5 mars 1865 et c'est la femme à barbe la plus célèbre de l'histoire de France. Et elle nous a laissé un journal intime. Alors elle écrit, est-ce que je prends l'accent berrichon qu'avait mon grand-père ? Ma jeunesse fut celle de toutes les filles de la campagne, rude et laborieuse. Mais à 18 ans, ma lèvre supérieure s'agrémentait déjà d'un duvet prometteur qui soulignait agréablement mon teint de brune. Ouais, oui, parce que vous pouvez y aller, parce que malheureusement...
je vais pas tenir.
Le duvet prometteur a tôt fait de se transformer en une pilosité abondante et drue.
C'est impressionnant.
Exigeant un rasage quotidien. Et oui, Clémentine souffre d'hirsutisme, définie comme la présence de poils chez la femme à des endroits qui habituellement caractérisent les hommes, à commencer bien sûr par le visage. Hein. C'est une affection généralement due à une trop forte production d'hormones masculines. Alors, cette particularité physique disgracieuse n'empêche pas Clémentine de trouver l'amour et de se marier en 1885 avec Joseph Delay, un artisan boulanger. Le jeune ménage ouvre un café à Thaon-les-Vosges ou Thaon-les-Vosges. Excusez-moi pour les habitants de Thaon-les-Vosges. J'ignore si on dit Thaon ou Thaon-les-Vosges, petite cité voisine d'Épinal. Et puis un jour, dans le bistrot, il y a un habitué qui dit à Clémentine, je te parie que tu n'oseras jamais mettre ton coupe-chou au rencard pour te laisser pousser la barbe. Et à la clé, un gros billet de 500 francs. Chiche ! Alors, quelques mois plus tard, Clémentine arbore une opulente barbichette, se dédoublant en deux panaches bien fournis. Et bientôt, elle devient la principale attraction du canton et les clients se pressent dans son bistrot, opportunément rebaptisé Café de la femme
et
à barbe.
Et son mari trouve ça bien ?
Ben ça lui plaisait, faut croire. Hein. Vous
il
savez,
était glabre.
Tous les goûts sont dans la nature. En tout cas, Clémentine, elle est fine mouche parce qu'elle fait réaliser toute une série de cartes postales qu'elle vend, qu'elle dédicace aux curieux. La femme à barbe à cheval, à vélo, la femme à barbe avec son chien, derrière son comptoir, devant un aéroplane. Et évidemment, tout naturellement, 14-18, quand les soldats français sont qualifiés de poilus, La femme à barbe qui s'est enrôlée dans la Croix-Rouge devient tout naturellement leur mascotte. Et voilà que sa renommée franchit les frontières et que Barnum en personne offre de l'engager dans son cirque. On lui propose même une tournée en Amérique. Elle refuse parce qu'elle se consacre à Joseph dont la santé décline un peu. Et puis à la petite Fernande, une orpheline dont les parents sont morts de la grippe espagnole et qu'elle a adoptée. Oui, c'est une très brave femme, Clémentine Delay. Elle est devenue veuve en 1928 et là, elle peut enfin faire carrière comme femme à barbe. Alors elle part à Londres, en Irlande et aussi à la Foire du Trône. Là, elle devient très copine avec la femme tronc. Et puis, finalement...
Ça, vous l'avez rajouté.
Pas du
tout. Ça, c'est
99%. Pas du tout. Mais pas du tout. Écoutez, avec qui voulez-vous qu'elle copine professionnellement ? Moi, je suis bien obligée de passer mes journées
bien
avec vous.
Nous.
Ah, bah, exactement. Donc, elle va à la Foire du Trône, et ses copines, c'est la femme tronc, et je sais pas quoi, elle est frère siamois, j'imagine. Bon. Alors, en tout cas, elle finit par s'installer à Plombières, et là, elle a renoncé au bistrot, et elle assume crânement sa féminité en ouvrant une boutique de dentelle et de lingerie.
Mais est-ce qu'elle était aussi fournie, de point de vue pileux, partout ?
Alors, je l'ignore, messieurs, et je dois vous dire que jusqu'à ce que je vous rencontre, jamais cette question ne m'avait effleurée. Hein. Bon, alors, c'est pour ça que vous êtes bien dans votre rôle d'évoquer des personnages sulfureux, tandis que moi, je rends hommage à la mascotte des poilus. Alors, en tout cas, bien des années après sa disparition, survenue le 19 avril 1939, sa ville natale lui a consacré un musée où sont évoquées d'autres femmes à barbe célèbres. Et Clémentine et toutes ces femmes de tout poil, si j'ose dire, y voisinent avec leur sainte patronne, une martyre entrée dans la géographie chrétienne sous le nom, à votre avis, messieurs, hein,
Sainte-Barbe.
Bah exactement, quoi, Stéphane, Sainte-Barbe, voilà. Sainte-Barbe, oui. Alors, je ne voudrais pas conclure quand même cette chronique sans évoquer deux autres femmes, puisque nous sommes le 11 novembre, deux femmes qui sont les créatrices de la fleur du souvenir qu'on voit fleurir partout. C'est pas pas suffisamment partout. D'ailleurs, le bleuet, vous
le
savez.
Le bleuet de voilà, France.
Le bleuet de France. Alors, ce sont deux femmes qui étaient deux veuves de guerre, Charlotte Malter et Suzanne Lénard, qui étaient toutes les deux infirmières, engagées pendant 14. Et c'est elles qui ont eu l'idée de faire fabriquer des fleurs en tissu et en papier par les blessés de guerre. Évidemment, oui, quoi de mieux qu'une fleur pour symboliser la renaissance après des années dominées par la mort de la guerre de 14 ans. Nous, on a choisi le bleuet parce que c'est aussi une des premières fleurs à refleurir sur les champs de bataille. Il est devenu la fleur du souvenir en 1920 et depuis 34, on le vend tous les ans, le 8 mai, le 11 novembre. Et je ne sais pas si vous savez, mais nous avons le bleuet, les Anglais le poppies, le coquelicot et l'Allemagne aussi a sa fleur du souvenir.
Ah, Stéphane.
Le Vergiss mein nicht, myosotis.
Le myosotis.
Oh la vache, il est balèze.
Bon,
bah oui, ça symbolise la paix et qu'est-ce que ça veut dire ça, en allemand, ça veut dire ne m'oublie pas.
Ne m'oublie pas. Ouais, forget me not en anglais.
Vergiss mein nicht.
C'est fou comme vous savez les trucs en dehors du quiz.
Parce que
parce que nous, on s'intéresse vraiment à l'histoire, Mathieu. Alors que votre quiz n'a rien d'historique.
Le spermicide à base de crocodile, excusez-moi.
Ça c'était hier, c'était fort intéressant. D'accord.
Bon alors bref, ouais. ce souvenir, c'est bien de ça qu'il s'agit avant tout. Bleuet, poppies ou myosotis, chaque année, selon l'admirable formule de Jean Cocteau, l'éphémère éclosion de ces fleurs de papier rappelle à chacun d'entre nous que le vrai tombeau de l'homme, c'est le cœur des vivants. Et oui, moi j'aime bien m'élever d'un cran à la
On est parti de la femme à barbe, on est parti sur la pilosité de l'hémisphère sud de la femme à barbe, et ensuite vous êtes remonté
et
vous
vous êtes élevé. La Clementine's touch, si
c'est
vous voulez.
Magnifique.
C'est partir du trivial pour arriver dans les hauteurs.
Magnifique, Clémentine Portier, Kelton Mac, vous restez avec nous. Un homme et une femme, parfois ça ressemble à ça. Et puis parfois, hélas, ça ressemble à ça. Le quiz arrive.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Alors que l'heure de notre célèbre affrontement Kaltenbach-Bern a sonné, il est bon, me semble-t-il, de rappeler à Clémentine une règle de base du quiz. Chaque candidat ne peut donner qu'une réponse à chaque question. La stratégie qui consiste à donner quatre réponses différentes dans l'espoir que l'une d'entre elles soit par hasard la bonne n'est pas recevable.
Oh, c'est vraiment une coquille de typologie qui est trop belle pour être vraie. Ça va être vrai. Je dirais que c'est faux. Ça me paraît too much d'avoir... alors je dirais c'est vrai. Non, c'est faux.
Non. Une seule réponse.
Vous n'avez pas noté la seule vraie coquille. J'ai dit c'est une coquille typologique. C'était typographique naturellement.
C'est vrai que typologique, ça ne va pas à vous.
C'est ça que vous devriez remarquer.
Vous souriez vous-même vos propres erreurs. Il en est incapable.
Moi, je vous en prie, Stéphane. Oh là là, attendez, je change les questions. Je rechange les questions. Pas de questions sur les bonbons pour Stéphane. Jouons à Bern to Biel. Notre fameux quiz. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Attention, question sur les rois. Normalement, vous devriez avoir bon. C'est grâce au problème gastrique de Louis VI le Gros qu'on doit l'arrivée du premier yaourt en France. Vrai ou faux?
Mais
je vous dis pas « Ah bon ?» Je vous demande si c'est vrai ou faux. C'est pas une affirmation, on est dans le quiz, Stéphane.
Alors, d'après vous, Stéphane. En tout cas, Stéphane, c'est Charlemagne qui a popularisé le Roquefort. On dit qu'il avait adoré ça, etc. Non mais pourquoi pas Louis VI, si c'est Charlemagne et le Roquefort, pourquoi pas Louis VI
tout
et le yaourt?
Tout est possible, c'est ça qui est magique dans le quiz. Le yaourt est-il arrivé en France à cause de Louis VI le Gros, ou grâce à Louis VI le Gros? Comment ça? Ah non, mais donnez-moi une réponse, vrai ou faux?
Attendez, non, je crois pas, non.
Ça vous rappelle rien?
Le yaourt est bulgare et...
C'est Attila qui a dû introduire le yaourt en France.
Ces clichés qui ressurgissent comme ça au détour de... Le yaourt est bulgare, oui Stéphane?
Écoutez, Louis VI le Gros est associé à beaucoup de choses. Il met pas au yaourt. Enfin, pas dans ma mémoire en tout cas, peut-être ailleurs, mais...
Vérifions la qualité
je dirais
de
votre
mémoire.
Moi je dirais non.
Il dit non.
Vous avez... gagné!
Bonne réponse Stéphane. C'est 400 ans plus tard, grâce au problème gastrique d'un autre roi. Devinez qui?
Louis XIV.
François Ier. Un point en moins. Ce dernier,
il est donc à zéro.
Non, mais oui, c'est comme ça.
Ok, je ne joue plus. Je ne joue plus.
Écoutez, Stéphane, cultivez-vous. On est là pour se cultiver. On n'est pas là forcément pour gagner.
Non.
C'est pas grave. Stéphane.
Si
vous avez déjà réussi beaucoup de choses dans votre vie.
Vous utilisez chaque bêtise contre moi.
Évidemment, Stéphane, c'est mon métier.
Écoutez, je ne veux pas. Je ne veux pas être traîné dans la boue sur Europe 1.
Vous n'êtes pas perdez dans la boue, simplement vous perdez.
Dans le yaourt.
Mais non, mais je ne perds rien. J'ai donné une bonne réponse. Saluons la bonne réponse.
Mais je la salue et ensuite je vous fais perdre un point parce que vous avez fauté, vous m'avez dit Louis XIV.
Écoutez
bien, François Ier, ce dernier a un rival, Charles Quint. Du coup, il s'allie avec le sultan ottoman Soliman le Magnifique.
Ottoman. Vous avez un point
de
moins.
Oui, c'est vrai, j'ai un point
c'est
de moins.
C'est pas un canapé.
Je vous redonne votre point. Du coup, il s'allie avec Soliman le Magnifique, le sultan ottoman. Ils deviennent très proches et quand François Ier se plaint de sévères désordres intestinaux, Soliman lui envoie son médecin personnel qui lui fera faire une cure de plusieurs semaines de yogourt-marque, un yaourt à base de lait de brebis. Voilà l'arrivée du yaourt
c'est passionnant.
Qu'on adore en France. Et vous ne le saviez pas, vous non plus.
Je l'ignorais tout à fait.
C'est beau. Bon, Stéphane, on va dire que vous avez un point. Question Merci. Numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. En France, jusqu'en 1930, il existait à Paris des boucheries canines. Vrai ou faux?
Jusqu'à quelle époque?
Jusqu'en 1930.
En France, des boucheries canines jusque dans les années 30?
Oui.
Je dirais non, mais je sais qu'on mangeait du cheval, naturellement. On avait un ratodrome, mais sans doute donnait-on les rats à manger aux chiens, et on aurait derrière ça mangé du chien. Non, j'ai jamais entendu raconter ça, mais non.
Écoutez bien, Stéphane.
Il y avait une photo qui existe d'une boucherie canine.
Mais à quelle époque? C'est tout l'enjeu de la question.
Au XXe siècle, c'est une photographie, donc je crois que c'est au XXe siècle. Je veux pas.
Vous semez le doute.
Qui mangeait de la viande de chien, chez Stéphane? Clémentine.
Je ne sais pas si on en mangeait, mais je me souviens avoir vu.
Si c'était vendu, c'est bien que quelqu'un en mangeait, Stéphane.
Ouais, hein ouais. Ouais, oui.
Bon, alors, je ne sache pas qu'il y ait eu une boucherie. Je réponds non parce
vous
que je.
Non.
Je
c'est l'honnêteté et l'honnêteté est payante.
Vous avez.
C'est une bonne réponse, même si le raisonnement n'était pas le bon du tout. En France, jusqu'en 1930, existait-il des boucheries canines à Paris? La réponse est faux. Bien après, il y avait un marché dédié à la vente de chiens à Paris, rue Saint-Honoré. On en a consommé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale à cause de la famine. Il fallait compter 2,50 francs le kilo de viande de chien. Bon appétit, et bon goûter à tous. Stéphane
on a bien
Bern.
Mangé de la saucisse de rat pendant le siège de Paris.
De la saucisse de rat?
De la saucisse de rat et du pain de sueur. Et on a mangé les castors et pollux, les éléphants du Jardin des Plantes. On mangeait tout ce qu'on trouvait. Enfin, c'est les années 30 qui me...
Mais oui, c'était vraiment... après encore.
Et bien après.
Bien après, ça qui est fascinant. Hein. Stéphane Bern, troisième question pour vous. C'est le 14 mars 1891 en France que l'on décide d'uniformiser l'heure sur tout le territoire. D'ailleurs, notre pays est celui qui a le plus grand nombre de fuseaux horaires au monde. Vrai ou faux?
Oh, ça, Stéphane, c'est un gros piège.
Hein.
Parce qu'il n'y avait qu'une heure de décalage entre Brest et Strasbourg. Et on a uniformisé l'heure à cause des trains et du développement du chemin de fer. On pouvait pas.
Non, mais là, je fais appel à l'intelligence de Stéphane.
Mais Stéphane, c'est le fuseau horaire. Il y a Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a Tahiti, il y a etc. C'est tout à fait possible.
Redites-moi, en France métropolitaine ou pas?
Ah, non, en France.
Ah, voilà, c'est laquelle piège. Je ne vous laissais pas avoir, Stéphane.
Est-ce que la France est le pays où il y a le plus grand nombre de fuseaux horaires au monde, Stéphane?
Moi, je pense
monde.
Que c'est possible. On a déjà le deuxième espace maritime mondial.
On a le deuxième espace maritime. On a une frontière avec le Brésil, et qui est la plus longue, d'ailleurs, en Guyane.
Mais arrêtez d'étaler
votre
culture, Stéphane.
Mais on aime bien un peu à quoi ça sert. Là, on passe notre vie dans des bouquins. Il faut bien qu'on en fasse un peu état de notre science de temps en temps.
Alors, Stéphane, quelle est votre réponse?
Je réponds oui.
Il répond oui, pas du tout orienté par Clémentine Portier-Kaltenbach.
Mais non, il le sait très bien.
Est-ce une bonne réponse?
Vous avez gagné!
Et oui, grâce à nos territoires d'outre-mer, nous avons 12 fuseaux horaires différents. 10 pour les États-Unis, 9 pour la Russie. C'était une question piège. Vive la France, vous avez su déjouer le piège, Stéphane. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Nous sommes le 11 novembre et bien les poilus qui sont morts le 11 novembre 1918, ce jour de l'armistice, ont été déclarés morts la veille. Vrai ou faux? Ils sont morts le 11 novembre, jour de l'armistice. Est-ce qu'on a déclaré leur mort la veille?
Ah oui, ils auraient été déclarés le 10. C'est vrai que c'est tragique, hein, c'est tragique. C'est possible,
terrible.
Ça. Je dirais que
terrible.
C'est possible parce que c'est vrai qu'affiché sur un monument. Non, sur le monument aux morts, il y a tombé pour la France, il n'y a pas la date exacte. Mort la veille. Je ne vois pas pourquoi on aurait travesti leur
Ah, pour éviter de dire qu'ils étaient morts un 11 novembre.
Oui, oui, oui.
Jour de leur mission.
Mais il y a un poilu qui est mort, le dernier poilu est mort, si ça se trouve, le 10. Moi, je pense que c'est. Je vais répondre non.
Vous répondez
non. Je vois pas
non.
Pourquoi on aurait travesti leur jour de mort, oui, pour pas les faire mourir le jour de la victoire, mais ça me paraît déplacé.
Vous avez perdu.
Bon. L'histoire est déplacée, parfois, Clémentine. C'était vrai. Le 9 novembre, une dernière bataille est lancée alors que la France et l'Allemagne commencent à négocier la paix. 1200 hommes franchissent la Meuse pour attaquer une garde prussienne. Résultat, 96 tués. Il faudra attendre 10 ans pour qu'il soit honoré sur un monument aux morts. Pour ceux tués le 11, il est marqué le 10 comme date de décès. On ne meurt pas le jour de la victoire.
Ouais, c'est,
voilà
ça,
l'explication.
Ça se défend.
Je crois que nous avons affaire, Clémentine, je suis désolé
défaite,
pour vous,
j'en ai peur,
à une
oui.
nouvelle défaite et une nouvelle victoire du serial winner, comme on l'appelle, Stéphane Bern. Même si bon, je vous avais enlevé un point, je vous l'ai remis. Bon, bah, vous pouvez me dire merci.
Je vous dis merci, mais enfin en même temps, j'ai gagné.
<rire> 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Il ne suffit pas d'avoir un concept génial, encore faut-il penser à le déposer. Prenez Roland Moreno, l'inventeur de la carte à puce. Il n'a pas déposé son concept, résultat, l'histoire n'a retenu que Dario Moreno.
Si tu vas,
donc
Dario,
Stéphane, j'espère que vous avez bien déposé le concept d'historiquement vôtre à l'INPI, hein, qu'on ne se fasse pas avoir.
Ah, bien sûr Mathieu. Ah, bon, j'ai juste mis mon nom.
Ça serait un sacré scandale.
Bah ça tombe bien, c'est le thème de l'émission du jour. Ces personnages de l'histoire...
Je vous vois bien grouver là-dessus, Stéphane.
Écoutez, ne me déconcentrez pas, Mathieu. Ces personnages de l'histoire qui ont fait volontairement scandale. Après Gustave Courbet et son célèbre tableau « L'origine du monde », je vais vous parler d'un génial provocateur poète aussi, Boris Vian. Et vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un faiseur de scandale plus contemporain, plus professionnel aussi. Hein.
Oui, il y a deux types de pubs. Celle qui prend pas de risque en adressant un message simple et consensuel.
La perte, y en a pas deux.
Et puis il y a la pub qui prend des risques, voire parfois de très gros risques. Je vous raconte l'histoire d'Oliviero Toscani, l'homme derrière les pubs Benetton ultra trash des années 90.
Sans oublier nos célèbres chroniqueurs et les chroniques qui vont avec. David Castello-Lopez qui nous raconte les origines d'une invention. Et aujourd'hui, c'est vrai, on se dit, bah, le Tipex, par exemple, ça vient d'où?
Mais ce qui serait surtout bizarre, effectivement, oui. c'est que les chroniqueurs viennent sans chronique, Stéphane. Oui, oui. Ou l'inverse.
C'est
les chroniques,
c'est peut-être chroniqueurs. C'est peut-être le ça top risque du statut des chroniqueurs,
tu vois, ça en a même plus besoin.
Il est là. Ça risque là. D'arriver. Et le pire, c'est des chroniques sans chroniqueurs.
Mais oui, c'est ça, c'est dingue. C'est dingue. Mais c'est pour demain. Il ne peut pas y avoir de chronique sur l'origine d'un objet sans vous, David Castello. Il n'y a que vous pour vous intéresser à l'origine, aujourd'hui, par exemple, du Tipex.
Voilà. Non, mais vous êtes très papeterie aussi, hein, je vous connais, donc voilà, j'essaie de vous faire plaisir.
Le taille-crayon, on aura l'origine taille-crayon un jour.
Ça m'a l'air très simple comme invention. Ça,
oh, oh là là. Non, dites pas plus. Olivier Pouls, vous, ce n'est pas tellement la papeterie qui vous fascine dans la vie.
Non, mais c'est un scandale quand même. Je vais coller au thème. C'est un scandale que vous n'aimiez pas les cannelés, mon cher
c'est
Mathieu.
Mon goût.
Non, c'est un scandale.
J'y peux rien.
Je vous en parlerai.
Très, très intéressant. Mais
ça fond dans la bouche.
Oui, c'est croustille-moelleux, comme on dit.
Croustille-moelleux, parce que vous parlez de l'histoire du cannelé, qui a donc une histoire intéressante, j'imagine, si vous nous en parlez aujourd'hui.
Et plutôt girondine, d'ailleurs.
Les poilus, on en parle aujourd'hui, c'est le 11 novembre, évidemment, mais d'où ça vient l'expression les poilus, Stéphane, vous nous le direz dans le mot de la fin?
Absolument, Mathieu.
Mais tout de suite...
Du Portugal, non?
Oh, ça c'est des blagues.
Une réaction, David, parce que là, on touche quand même le fond.
Non.
Peut-être une petite.
Écoute,
vous avez été confronté à ce genre de là où on les fait plus depuis les années 80.
Mais c'est le, toujours. En fait, le Portugal, c'est la nation pour laquelle il n'y a pas de problème. En fait, on peut les faire encore.
Ah,
les
voilà, c'est le dernier.
C'est vrai qu'il y a la Belgique aussi. J'ai donné.
Un partout.
C'est ça, les nations européennes secondaires.
Un partout, la balle au centre, messieurs. Stéphane, je vous le dis en toute amitié, j'irai cracher sur votre tombe. C'est pas de la haine, c'est de la poésie. Vous nous racontez le destin romanesque d'un provocateur né, Boris Vian.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il a guinché dans les boîtes de jazz du Paris d'après-guerre. Il a donné ses lettres de noblesse aux déserteurs. Stéphane Bern, vous nous racontez le destin court mais intense d'un des scandaleux les plus poétiques, Boris Vian.
Oui, partons dans le Paris de l'après-guerre à la rencontre d'un touche-à-tout inclassable, Boris Vian, dont nous avons fêté le centenaire en mars dernier. En 1946, il a 26 ans et une vie bien remplie. Il consacre ses journées à son gagne-pain d'ingénieur et le soir venu, Boris Vian joue de la trompette sur des airs de jazz signés Duke Ellington. Son autre passe-temps, c'est de dégainer sa plume pour écrire romans et nouvelles dans un style bien à lui. Vian a les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Il livre des récits tendres, empreints de poésie et de rêve, mais à l'époque, il peine à convaincre les éditeurs. Pourtant, l'industrie du livre n'est pas en reste. Après des années sombres, le public est avide de distractions et apprécie un genre littéraire nouveau, tout droit venu des États-Unis, avec les cigarettes blondes, le bebop et les chewing-gums, j'ai nommé le roman noir. Alors, dans les sphères intellectuelles du quartier parisien de Saint-Germain-des-Prés, beaucoup veulent surfer sur cette vague. Jean Dalloin est de ceux-là. Il n'a pas 25 ans et vient de fonder les éditions du Scorpion, mais pour l'instant, sa petite entreprise ne lui rapporte pas un sou. À la recherche du succès littéraire, les deux comparses, à l'imagination débordante, ont l'idée d'un canular. Ils vont s'associer pour faire publier un livre. Boris en sera la plume officieuse. Le duo va inventer de toutes pièces un écrivain noir américain à la plume sulfureuse. Un auteur que les éditeurs puritains du pays de l'oncle Sam n'ont jamais osé publier. Le pari est lancé. En 15 jours à peine, alors qu'il passe ses vacances d'été en Vendée avec sa petite famille, Boris Vian écrit « J'irai cracher sur vos tombes », un roman sulfureux, pastiche de polar américain à haute dose érotique, qui paraît en novembre 1946. Boris Vian entre dans la peau du traducteur de l'ouvrage, mais sur la couverture, on lit « Vernon Sullivan ». Le double fictif de Vian y raconte l'histoire de Lee Anderson. L'homme est un métis américain qui veut à tout prix venger son frère, lynché à mort pour avoir aimé une blanche. La sexualité est omniprésente dans le roman et l'auteur n'y est pas allé de main morte. Le sadisme et la perversion animent son héros. Mais derrière les mots crus, Vian Sullivan dénonce. Les pérégrinations de son personnage ont pour toile de fond les états sudistes d'une Amérique ségrégationniste et raciste qu'il exècre. Dès la parution du livre, les ligues de bonne vertu sont outrées. Elles s'indignent et déplorent les conséquences terribles que ce roman décadent pourrait avoir sur la jeunesse. Cette bataille contre le vice, c'est le cartel d'action sociale et morale qui la mène. Daniel Parker en est le leader et n'hésite pas à accoler à Boris Vian l'étiquette d'ignoble pornographe. Bientôt, une plainte est déposée pour outrage aux bonnes mœurs. Mais dans son entreprise pour rétablir la vertu, Daniel Parker offre une superbe publicité au livre et les ventes s'envolent. Pourtant, « J'irai cracher sur vos tombes » est une bombe à retardement, car le canular tourne au vinaigre quand un jour de mars 47, le corps d'une femme est retrouvé sans vie dans un hôtel parisien proche de la gare Montparnasse. L'assassin, qui était l'amant de la jeune femme, s'est livré à une étrange mise en scène. À côté du lit où sa victime gît étranglée, il a pris soin de laisser en évidence un exemplaire de « J'irai cracher sur vos tombes », ouvert sur une page qui relate un crime similaire commis par le héros de Vernon Sullivan. Il n'en faut pas plus pour déchaîner les gazettes à sensation. Dans les colonnes des journaux, les journalistes affirment non seulement que Boris Vian et Vernon Sullivan ne font qu'un, mais qu'en plus, ces sulfureux écrits le rendent responsable par procuration du meurtre d'Anne-Marie Masson. Le scandale est tel que Vian est obligé de riposter en faisant publier dans le journal Point de vue un texte au titre manifeste « Je ne suis pas un assassin ». Mais dans sa tentative de défense, Boris Vian s'enfonce toujours plus dans le mensonge. Il nie farouchement être Vernon Sullivan. D'ailleurs, sa volonté de faire exister coûte que coûte l'auteur noir américain ne s'arrête pas là. Boris Vian veut prouver qu'il n'est que le traducteur de « J'irai cracher sur vos tombes » et pour cela, il trouve une idée pour le moins kafkaïenne. Il va faire publier la fausse version originale du livre, c'est-à-dire réécrire entièrement « J'irai cracher sur vos tombes » en anglais. Traduction d'une traduction fictive, vous me suivez ?
Je vous suis, même si c'est compliqué.
« I shall spit on your graves » est désormais disponible en librairie. Mais ça ne suffit pas à convaincre. Alors Vernon Sullivan récidive. Deux autres romans paraissent, sans jamais que le mystérieux auteur n'ait fait la moindre apparition publique. La publication tapageuse devient un nouveau best-seller et rapporte des sommes astronomiques au duo à l'origine de la supercherie. Boris vide sa plume, mais les livres publiés en son nom ne connaissent pas le même succès que ceux de Vernon Sullivan. Alors là, Boris Vian finit par avouer, oui, il est bien l'auteur de « J'irai cracher sur vos tombes ». Non, Vernon Sullivan n'a jamais existé. Ce qui n'était qu'une bonne blague finit par le conduire au tribunal où il est condamné à 100 000 francs d'amende. Daniel Parker a gagné. Le livre est interdit à la vente. Pourtant, la malédiction « J'irai cracher sur vos tombes » ne s'arrête pas là. Elle finira même d'achever le parcours météorique de l'auteur atypique. Un matin de juin 1959, Boris Vian doit assister à la projection d'une adaptation de son livre polémique sur grand écran. Mais au cinéma Marbeuf, dès les premières images, Boris Vian peine à trouver son air. Il finit par s'écrouler victime d'une crise cardiaque foudroyante. On rallume les lumières, on fait évacuer l'écrivain, mais il est trop tard. Boris Vian n'est plus. Depuis l'enfance, il était malade du cœur. L'incroyable scandale provoqué par la publication du sulfureux « J'irai cracher sur vos tombes » s'éteint en même temps que son auteur, qui reste aujourd'hui comme l'un de nos poètes majeurs.
Europe 1, historiquement vôtre.
Lui aussi est un poète contemporain, celui-là, Boris Vian, est celui qui lui a donné le premier envie d'écrire. Mathias Malzieu, le leader du groupe Dionysos, est avec nous cet après-midi. Bonjour Mathias Malzieu.
Bonjour.
Bonjour Mathias, vous êtes chanteur, musicien, romancier aussi. L'esprit de Boris Vian plane dans vos écrits, notamment dans votre roman « Le plus petit baiser jamais recensé » paru il y a quelques années. Boris Vian est présent aussi dans votre musique ?
Oui, bah c'est marrant que vous ayez choisi « Tel a fait son effet », vous l'avez bien choisi. Effectivement, ce côté swing, en utilisant un peu une atmosphère jazz New Orleans, on se rapproche un petit peu des références de Vian. Et puis, on peut pas se dire que l'influence est directe sur la musique, parce que lui détestait le rock, et moi j'en ai fait quand même ma matière première du rock'n'roll. Mais dans l'esprit, je me sens très très proche de Boris Vian, à la fois pour la musique, la langue, et aussi pour son côté décloisonneur, déplaceur de montagne joueur, comme ça.
Eh ben justement, Mathias Médieu, on va continuer à parler avec vous de Boris Vian, dont on a célébré le centenaire, dans un instant sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue chaque après-midi. Trois personnages sur le papier, pas forcément de la même époque, mais qui pourtant ont un point commun aujourd'hui, celui d'avoir fait scandale. On parle de Boris Vian avec Mathias Malzieu, un fan. On peut dire que vous êtes fan de Boris Vian, Mathias.
Ah oui, complètement.
Alors vous avez écrit le prologue du livre anniversaire Boris Vian 100 ans, qui vient de paraître aux éditions Eredium et qui accompagne les célébrations officielles du centenaire de Boris Vian. Vous êtes d'ailleurs le parrain de ce centenaire. Pour vous, Boris Vian était moderne en 1950, mais c'est ça qui est fou, il est toujours aussi moderne aujourd'hui.
Il est moderne parce qu'il est lui-même, justement. Il n'a jamais essayé d'être moderne. Il n'a jamais essayé d'être anticonformiste ou d'être conformiste ou d'être classique. Il avait une jubilation de son imagination qui était telle. Qu'il avait besoin d'aucun autre repère que son désir de raconter des histoires, d'écrire des livres, de faire des chansons, des pièces de théâtre et autres, ce qui fait qu'il est hors du temps finalement. Et c'est quand on est hors du temps qu'on reste moderne pour toujours.
Vous écrivez, Mathias, dans votre prologue, « Boris Vian a trop souvent été oublié de son vivant, c'est dit, mais son œuvre est en train de le venger, tel un samouraï qui continuerait à se battre tête coupée. Le cœur continue. Livres, chansons, poèmes, articles, pièces de théâtre et autres tours de magie instinctifs dessinent une map monde dont les routes sont les veines qui mènent au cœur de son cœur, l'imagination. Son imagination, c'est un peu ce que vous avez de commun aussi avec lui et ce qui fascine le plus chez lui.
Oui, et puis l'imagination, on a tendance toujours à la déprécier, à dire que c'est un truc de l'enfance ou... Alors qu'en fait, l'imagination s'en sert tous les jours. On peut s'en servir pour imaginer des sirènes ou des licornes ou des écumes des jours, mais on s'en sert pour l'empathie, se mettre à la place de quelqu'un. Il faut avoir de l'imagination pour le faire. Et c'était aussi quelqu'un d'extrêmement généreux et empathique de ce qu'on m'a raconté. J'ai évidemment, avec ce centenaire de Boris Vian, beaucoup côtoyé Nicole Berthold, qui est son ayant droit et qui tient son appartement de la cité Véron comme à l'époque, où on peut aller le visiter, se promener au milieu de ses disques de bebop et de ses livres. Et vraiment, la question de l'imagination, elle est vraiment sur le créatif, mais elle est sur l'humain. C'est pas juste un espèce d'exercice de style, de déconnexion de la réalité. Au contraire, c'est son ADN.
On le sait, Boris Vian était un vrai touche-à-tout. Mathias, il a été ingénieur formé à l'école centrale, écrivain, poète, parolier, jazzologue, pataphysicien, trompettiste. Il était bon partout. Il y a une discipline dans laquelle il était meilleur ou c'était vraiment son truc, sa force, c'était d'être touche-à-tout.
Ça aussi, comme l'imagination, c'est un truc qui est assez condamné par chez nous. Hein. On a toujours un doute sur celui qui fait plusieurs choses. Forcément, il fait quelque chose de pas bien. C'est pas normal. Il sort des cases. Mais lui était comme ça. Ça veut pas dire que c'est bien pour tout le monde et que c'est un système qui convient à tout le monde. Mais lui était un petit peu unique. Et dans son côté unique, il avait besoin de se multiplier, de changer de point de vue, un petit peu comme un... C'est ce que nous dit finalement le professeur Keating dans le Cercle des Poètes Disparus, quand il dit aux élèves de monter sur leur bureau et de regarder le monde d'un autre point de vue. Mmh. Lui, il avait besoin, comme un réalisateur sur un plateau, il va mettre la caméra devant, derrière, en haut, sur le côté, en contre-plongée. Et du coup, on voit le monde différemment. Il avait besoin de cette vision complète pour irriguer à la fois ses poèmes. Il avait besoin de chanter, de faire ses romans. Il avait besoin d'être toujours à un autre endroit que l'endroit où il était censé être.
Mais c'est aussi l'homme de tous les scandales. Et lors du scandale que j'ai raconté de 1947, oui, avec cette femme tuée par son amant dans un hôtel parisien et qui se serait inspirée du livre de Boris Vian, J'irai cracher sur vos tombes, pourquoi est-ce que, au départ du scandale, il nie être Vernon Sullivan alors qu'il sait très bien, au fond de lui, qu'il va devoir avouer un peu plus tard?
Il a perdu au jeu, en fait. Il a fait un petit poker amusant. C'était un pastiche, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Il a fait ça pour s'amuser. Et puis en fait le truc, c'est que ça a eu du succès et puis ça a créé ce scandale là. Donc en fait il s'est fait dépasser en fait par quelque chose qui n'était pas lui et qui est devenu plus grand que lui.
Il l'a mal vécu.
C'est la terrible. Il a très mal vécu parce que c'est une terrible ironie du sort, parce que c'était dans un moment en plus où il commençait à se dire qu'il n'allait plus écrire de romans, alors que sa compagne Ursula l'encourager au maximum à continuer d'écrire parce qu'elle croyait en ses talents de poète et de romancier, et où il a commencé à se décourager un petit peu parce que même L'écume des jours n'avait pas beaucoup de succès, et en termes de vente, mais surtout en termes de considération professionnelle, quoi, de critique, il n'était pas du tout, pas forcément en tout cas le bienvenu. Ils étaient peu en fait ceux qui le défendaient. Donc là, du coup, d'avoir un succès, c'est un truc qu'il a fait comme une blague. Mm-hmm. C'était pire, en fait. C'était encore plus cuisant. Alors bon, ben, ça au moins...
Mais il y a de l'ironie dans sa vie. Il y a toujours eu de l'ironie, y compris, oui, le fait qu'il détestait l'adaptation du film. Il va assister à l'avant-première au cinéma Marbeuf et il meurt pendant la projection. Son cœur a lâché en voyant le film qu'il détestait.
Tout à fait. Et puis ça le poursuit encore aujourd'hui. Regardez... cette année, on célèbre son centenaire, donc il y avait énormément de choses organisées.
Et oui.
J'en étais le parrain. Le jour de son anniversaire, on devait faire aux Trois Baudets, où j'ai la chance de faire la direction artistique, un concert de Carmen Maria Vega, qui jouait toute une partie de son répertoire avec des poèmes, etc. Et bon, Covid oblige. Bon, on l'a quand même fait, hein, finalement, avant le confinement, le reconfinement, là, il y a quelques semaines. Mais quand même, il y avait énormément de choses qui encore à nouveau passent à l'as. Donc, bah, tant pis, on fêtera ses 101 ans s'il le faut, parce que finalement, pour un fatalitien, fêter les 101 ans plutôt que les 100 ans, ça peut presque être cohérent.
Alors justement, ouais. Mathias Malzieu, il y a une bonne chose avec ce confinement, c'est qu'on a parfois un peu plus de temps pour lire. Si vous deviez conseiller un livre de Boris Vian qui vous a marqué, ça serait lequel?
Alors, je sais que c'est pas original, hein, mais je vais pas faire semblant de ne, oui, pas être snob, surtout avec la chanson de Boris, justement. Oui. mais je vais forcément dire L'écume des jours, parce que c'est par celui-là que j'ai eu envie de tout découvrir, les livres, la musique et le personnage, tout simplement parce que c'est une Chloé qui me l'a offert, parce que elle s'était appelée Chloé, parce que ses parents avaient adoré ce livre. Elle me l'a offert. Bon, bah moi j'étais dans mon époque Nirvana, Pixies, Velvet Underground, et lire un livre d'un Français qui faisait de la trompette de jazz, je m'en foutais un peu. Et puis elle m'a quitté, cette Chloé, parce que j'étais évidemment pas tout à fait mûr comme garçon. Et finalement, bah je me suis retrouvé avec ce livre, et pour garder un petit lien, une petite nostalgie avec elle, j'ai fini par le lire quelques mois plus tard. Et je suis tombé en amour sur cette langue, sur ces personnages, sur cette façon. Et c'est là que j'ai commencé à dérouler la bobine du fil Boris Vian et à tout découvrir. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, et on dit beaucoup que c'est un roman d'adolescence qu'on aime quand on est adolescent. C'est vrai, mais pas que vrai. C'est-à-dire qu'il tient complètement la route quand on est à tous les âges. Et je pense que ça reste quand même une magnifique porte d'entrée, parce que il y a le swing, il y a la langue, il y a la poésie, il y a le côté cinématographique, même des petites piécettes de théâtre au milieu. En fait, il y a comme un, Ouais, c'est une belle porte d'entrée à l'univers de Vian, de toute façon.
Et puis il y a surtout le pianoctel, hein, cet objet qu'on peut retrouver chez Stéphane Bern, qui fait des cocktails en fonction des notes de musique.
Hein. Exactement.
Et blague à part, ouais. On est en train de fabriquer pour les trois baudets en vrai.
Ah génial, bravo.
Oh, vivement la fin du confinement.
En tout cas, merci beaucoup Mathias Melchior.
Merci.
Malzieu, je rappelle,
avec grand plaisir.
Boris Vian, 100 ans, 1920-2020, qui vient de sortir aux éditions Eridium. Vous pouvez également... Vous venez également de publier avec Daria Nelson un recueil de poèmes illustrés, Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse, aux éditions de l'Iconoclaste. Et voilà une maison d'édition toute trouvée pour parler de Boris Vian.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on évoque les scandaleux de l'histoire. Trois personnages qui n'ont pas eu peur de choquer. Après Gustave Courbet et Boris Vian, vous nous brossez maintenant, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un génie du scandale bien vivant, le photographe Olivier Toscani.
Oui, aujourd'hui Stéphane, je vous parle d'une tête brûlée, d'un type nos limites qui se fiche de tout et ne respecte rien, un peu comme vous au fond.
Faut leur expliquer, là, ça fait combien de temps maintenant qu'on fait déjà cette émission ? On s'en fout des disques.
Comme vous, mais encore plus trash, Stéphane, encore plus trash. Le photographe rendu célèbre par sa collaboration et ses campagnes choc pour Benetton dans les années 90, Oliviero Toscani. Plus subversif que Stéphane Bern, évidemment, je vous comprends, chers auditeurs, ça fait peur. Ça va surtout faire peur à Stéphane, car avec ses photos, Oliviero Toscani a osé s'attaquer à tous les sujets, tous les symboles, même les plus sacrés, même l'Église catholique.
Ah, mais aïeux.
Double ration d'eau bénite pour Stéphane cet après-midi. Je vous préviens, c'est toute votre palette d'acteurs qui va être mise à contribution, Stéphane. Notamment quand je vous montrerai la photo dite de la Kissing Nun, cette nonne qui embrasse un prêtre.
Ah, j'ai eu peur.
Tout en retenue, c'est bien joué, Stéphane. Oui, vous êtes choqué, et c'est bien le but recherché par Oliviero Toscani. Oliviero voit le jour à Milan, le 28 février 1942, à ce que les nostalgiques des régimes forts appellent la belle époque, l'Italie fasciste alliée des nazis qui organise des autodafés sur la Piazza Navona.
On savait vivre à l'époque.
Ah non, Stéphane, là je suis ironique, faut jouer l'horreur. Voilà, période terrible. Le père d'Oliviero est lui-même photographe au Corriere della Sera, célèbre quotidien italien. C'est grâce à lui qu'il va publier sa toute première photo. Figurez-vous qu'il a 15 ans et il a la présence d'esprit d'immortaliser la veuve de Mussolini se recueillant sur la tombe du Duce. Son père propose la photo au journal Banco. Le cliché fera le tour du monde. Durant les années 50, l'adolescent, fasciné par l'architecture, sillonne l'Europe en autostop, la France pour la culture, l'Espagne pour la corrida et la Suède pour les filles, explique Oliviero qui précise, je cite, « Elles étaient plus généreuses que les italiennes et Icône clin d'œil, diablotin et cornet vanille. Il décroche en 65 un diplôme de photographie à l'université de Zurich et met rapidement son talent au service de la presse et des marques de luxe qui adorent son côté too much. En faire trop, c'est le service minimum si tu veux passer pour un grand photographe, analyse Oliviero. Il réussit à traverser les années 70 sans tripoter le moindre mannequin mineur.
Non, c'est vrai.
Si, c'est fou. Bienveillant avec les jeunes filles, il est en revanche impitoyable avec ses employeurs. Il refuse toute exclusivité. Je n'en ai jamais eu et je n'en veux pas, même pas avec ma femme. C'est pour ça qu'on est fidèle. À un moment, un titre l'a exigé de moi, alors j'ai signé Zorro ailleurs pendant 2 ans, jusqu'à ce que les choses soient découvertes. Bon, les années passant et sa passion pour les pappardelles au gorgonzola allant crescendo, Oliviero ressemble de moins en moins à Zorro et de plus en plus à Sergent Garcia, mais professionnellement, il cartonne. En 40 ans de carrière, il aura bossé avec les plus grandes marques, les plus célèbres top modèles, même s'il a des regrets, tel Sartre, croisé à la coupole en 71. Subjugué par son pullover rouge, il propose au philosophe de rédiger son portrait pour la couverture de Vogue Homme. Flatté, Sartre se tourne vers sa compagne. « Qu'est-ce que t'en penses, Simone ? Tu ne fais pas ça !» lâche inflexible de Beauvoir. Il m'a regardé déçu comme un enfant. Là, j'ai fait une faute, s'en veut encore Toscani. J'aurais dû demander aux deux en même temps.
Grossier personnage.
Ben oui, patate. C'est en 82 qu'il commence à œuvrer pour Benetton, marque de vêtements dont il va transformer totalement l'image à jamais, à coups de campagne choc, parfois même dérangeante, qui lui vaudront pas moins de 60 procès. C'est facile de parler de ça maintenant, dit-il, mais à l'époque, je doutais. Je me demandais si je n'étais pas un peu fou. Nous aussi. Il y a les premières campagnes United Colors of Benetton, mettant en scène des gens de couleurs différentes dans des situations assez inédites pour une pub, comme par exemple une femme noire allaitant un bébé blanc, ou encore deux hommes, l'un blanc, l'autre noir, menottés ensemble. Tout ça est encore gentillé. En 92, Oliviero Toscani passe la seconde avec la fameuse affiche où l'on voit un curé embrassant une nonne, ou encore celle de Gizzy, un nouveau-né couvert de sang, ayant encore le cordon ombilical. Polémique et surtout révolution, car Toscani enfreint une règle d'or en publicité. Associer le produit à un événement, un élément négatif. positif. En France, le BVP, Bureau de vérification de la publicité, se distingue par son attitude éminemment progressiste. Ne pouvant censurer les affiches, parce que la censure n'existe plus en France depuis le Second Empire, Joseph Besnaïnou, son directeur général, demande aux afficheurs de ne pas placarder les affiches, mais il le demande en loose-dé. La marque Benetton est désormais culte, Toscani, un nom sulfureux, mais tout le monde s'arrache. Seulement voilà, il va trop loin. Avec la campagne d'un goût douteux, regardez la mort en face en l'an 2000 avec des photos de condamnés à mort. En bas de chaque image est écrit en gros « Sentence to death », condamné à mort. En bas à droite, écrit le nom, le vrai nom du condamné et son crime en dessous du logo de la marque. Une initiative qualifiée de moyen-moyen, même par les plus grands fans de Toscani, d'autant qu'Oliviero, en rendant visite et en photographiant certains condamnés, avait un peu oublié de leur dire que c'était pour une campagne de pub. Dernier coup d'éclat en date de Toscani, sa charge contre le populiste Matteo Salvini, dont il dit pique-pende sur les plateaux télé. Une de ses dernières attaques où il reprochait à Salvini de, je cite, « faire des pipes aux idiots, fara pompini agli idioti », lui a valu d'être condamné non pas aux 800 000 euros de dommages et intérêts que réclamait Salvini, mais à seulement 8 000, décision de justice qu'il a pris comme un encouragement. « Pour 8 000 euros, je suis heureux d'avoir dit ce que je pense. L'argent sert justement à ça, avoir la liberté d'expression. J'ai découvert qu'insulter Salvini coûtait le même prix qu'une Fiat Panda d'occasion. C'est une sacrée bonne affaire. » Alors, génie de la photo ou as du marketing, artiste ou boutiquier, agitateur de conscience ou provocateur rétribué, je ne me prononcerai pas. Une chose est sûre, ces clichés ont fait des dégâts. Quand votre mamie Stéphane avait vu la photo du curé qui galoche la nonne, elle n'avait pas supporté.
Une demi-heure après, elle était morte.
Mais on la comprend. C'était quand même très choquant, surtout à l'époque, Stéphane.
Merci beaucoup, Mathieu. C'était 99% vrai. Il y a donc 1% de faux.
J'en ai peut-être un peu rajouté sur les Suédoises, mais je crois que c'est quand même pour les Suédoises qu'il est allé en Suède, ouais. Certainement. Non, c'était quasiment ouais. Tout vrai.
Mais c'est fou parce que pour les condamnés à mort, on se dit pourquoi pas, mais le fait qu'ils soient pas consentants à aller
être
dans une pub, c'est quand même là, c'est pas possible.
En revanche, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais été extrêmement choqué. J'en ai pas parlé dans la chronique par la photo du malade du SIDA qui est en phase terminale, qui est vraiment.
Oui.
Mais quelque part, lui, il s'en justifie de manière assez intelligente. Il dit qu'à l'époque, il a fait connaître une cause et voilà. Donc après, c'est vrai que l'idée de l'associer à une marque est tellement folle. À l'époque, moi, ça me choquait. Aujourd'hui, je trouve que les pubs sont tellement nulles, tellement pour le produit et il n'y a pas de message, il n'y a pas d'esthétique que finalement, je me disais que c'était quand même assez intéressant son travail. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphane.
Oui, enfin, à ce niveau-là, je ne pense plus. Non, je suis assez d'accord avec vous. Cela dit, est-ce que ça se vend toujours, les fameux...
Écoutez, j'ai l'impression que les boutiques sont là, en tout cas.
Les pubs Benetton, c'est vrai que c'est un peu moins cool dans mon esprit que...
Voilà, exactement. C'est un peu passé de mode.
C'est moins subversif. Oui, mais vous avez bon part dans votre gamme de prix.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Nous sommes entrés dans la dernière demi-heure, la dernière ligne droite d'Historiquement vôtre, celle où le passé éclaire le présent. On part aux origines d'une découverte fondamentale de l'histoire de l'humanité aujourd'hui. Le Tipex avec vous.
Tout à fait. Alors peut-être pour ceux qui je suis pas sûr que tout le monde connaisse, le Tipex c'est cette peinture qu'on applique sur un mot qu'on a mal écrit
et
sur un
papier. Qui a une odeur particulière.
On attend que ça sèche et ensuite on peut réécrire dessus. Ça se présente historiquement sous deux formes principales que j'ai apporté ici en studio, même si ça se voit pas, mais vous pouvez les voir ici en studio. Une forme primitive qui est un petit flacon avec un bouchon auquel est attaché le pinceau applicateur.
Moi je ne connais que ça.
Voilà. Et une forme plus aboutie qui est celle tout simplement d'un stylo. Un stylo de Tipex avec lequel qui avait un avantage à l'époque du lycée quand même, c'est qu'on pouvait le détourner de sa fonction première, ce stylo de Tipex, pour écrire des choses sur les tables, des choses comme par exemple Nietzsche forever, voyez, ou le travail est une aliénation. Voilà, on était Stéphane, vous étiez élève au lycée Carnot dans les années 80, vous avez dû connaître ça, vous écrivez
Absolument, oui. J'ai connu
est-ce
ça.
Est-ce qu'il y a encore des tags de vous au Tipex sur les tables du lycée Carnot, Stéphane? Ou est-ce que vous étiez du genre à faire ça?
Elles ont dû être effacées.
Mais vous en avez fait? Vous avez été jeune, Stéphane?
Ah, j'ai fait beaucoup de bêtises, oui.
C'est vrai?
Oui, le lycée Carnot s'en souvient.
En tout cas, il y en a un qui a connu ça exactement, et c'est le chanteur Vincent Delerme, puisqu'il en parle dans une de ses chansons qui s'appelle « Les filles de 1973 ont 30 ans ».
Celles qui fusillaient au blanco les tables du lycée Carnot.
Décidément.
Celles qui fusillaient au blanco les tables du lycée Carnot. Alors, il y avait quand même quelque chose d'ultra pas pratique avec le Tipex, c'est que ça mettait vachement de temps à sécher quand même.
Ah oui.
Pour les besoins de cette chronique, j'ai testé. J'en ai mis sur une feuille de papier et j'ai chronométré combien de temps il se passait avant que ça sèche. 5 minutes au bas mot. Et moi, je me souviens très bien des problèmes que ça crée. Vous corrigiez une phrase au blanco sur votre copie pendant un examen. Vous vous disiez, en attendant que ça sèche, je continue à écrire et j'écrirai le mot qui manque plus tard. Mais le problème, c'est que vous oubliez et vous retrouviez avec des phrases du genre, la mélancolie chez Kierkegaard et contexte novateur, vous voyez. Et du coup, vous aviez 5 et c'était triste. Et tout ça, bien sûr, comme d'habitude, ça m'a donné envie de savoir d'où venait le blanco, le Tipex, le blanc. Eh bien, ça a été inventé par une dame qui s'appelait Betty Nesmith Graham. Betty, au début des années 50, elle était secrétaire dans une banque au Texas et elle n'était pas super forte pour taper à la machine, ce qui est un peu emmerdant quand on est secrétaire. Mmh. Donc, elle avait tendance à faire des fautes de frappe. Et la seule solution à ce moment-là pour corriger les fautes de frappe, c'était de gommer l'erreur avec le côté bleu de la gomme, vous savez. Et ça marche pas de ouf. Le côté bleu de la gomme. Mais Betty, elle était peintre amateur, pas très douée, hein, elle l'avouait elle-même qu'elle était pas très douée, mais elle était peintre quand même, et elle s'est dit, mais ils font quoi les peintres quand ils ratent? Eh ben souvent, ils effacent pas, ils peignent par-dessus. Et elle a amené de la peinture acrylique blanche et des pinceaux, et elle a commencé à corriger ses erreurs comme ça. Assez vite, toutes les autres secrétaires de la banque lui ont emprunté sa peinture pour faire la même chose, et elle a fini par se dire, mais ça ferait peut-être un business ça. Elle a étudié des livres de chimie pour améliorer sa formule. Elle a commencé à fabriquer le produit chez elle en le mettant dans de petits flacons de vernis à ongles. Et en 1958, elle a lancé son produit pour de bon sous le nom de Liquid Paper. C'est de l'anglais, hein, ça veut dire papier liquide.
Mais nous prenez pas non plus pour des buses. Sous prétexte que le mec maîtrise bien l'anglais, il nous prend vraiment pour des incultes.
Je parlais pour Olivier.
Non, je rigole.
Et ça a complètement explosé. Elle est passée de son appartement à une caravane pour fabriquer son Tipex, puis à un appartement de quatre pièces. Puis elle a eu des usines dans plusieurs pays. Elle a vendu des millions de flacons et elle a fini par revendre son entreprise 20 ans plus tard à Gillette. Pour 50 millions de dollars.
Bien joué, enfin quelqu'un qui a tout bien géré. Exactement. De l'invention jusqu'à la commercialisation.
Tout à fait, mais malheureusement elle est morte l'année suivante, en 1980. Mais elle a donné une grande partie de sa fortune à des associations qui luttaient pour la promotion des femmes dans la culture et dans les entreprises. Et le succès en plus est resté un peu dans la famille pour des raisons différentes, puisque son fils Michael est devenu dans les années 60 le guitariste du groupe The Monkees.
Mais non.
Vous connaissez The Monkees?
Bien sûr, j'ai été jeune.
Mais voilà, je pense que tout le monde connaît au moins ça.
Les Monkees ne sont pas arrivés jusqu'en Belgique.
Ça me dit vaguement quelque chose, mais voilà. Avoue, j'avais pas le disque chez moi.
Voilà,
des
millions d'exemplaires vendus, et tout ça, sans doute, on imagine que son adolescence a pas dû être si mal, puisque sa maman était déjà un petit peu riche à cause du Tipex. Alors aujourd'hui, le Blanco, dans sa version historique, il est en déclin, non seulement parce qu'on écrit moins qu'avant à la main, mais surtout parce qu'il est de plus en plus remplacé.
Mais pas parce qu'on fait moins de fautes, hein, ça je vous le dis tout de suite.
Pas parce qu'on fait moins de fautes. Mais surtout parce qu'il est de plus en plus remplacé par ces petites bandes que l'on applique comme du scotch sur les mots à raturer et qui sont immédiatement secs. Et du coup, on n'a plus ce problème de phrase à trous sur
Kierkegaard. Oui, mais il n'y a pas le charme. Le charme n'est plus là.
Mais voilà. Il n'y a plus le charme, il n'y a plus non plus le plaisir d'écrire sur les tables.
Puis on peut pas s'en mettre sur les ongles non plus, tout ça.
On peut essayer là. Attends, je vais essayer de
voir.
Ça
n'a pas d'odeur en plus, ce truc-là.
Ça n'a pas d'odeur. Non, ça manque de charme, mais c'est plus efficace, vous voyez. Mais c'est comme le TGV par rapport à la calèche, vous voyez.
Voilà une comparaison audacieuse.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est une fois que c'est ouvert, vous avez très peu de temps pour l'utilisation parce que ça sèche.
Tout à fait. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait une méthode pour ça? C'est que quand le flacon séchait, on achetait un deuxième produit qui était un dissolvant.
On
touillait et ça redonnait ça donnait une nouvelle vie à votre petit flacon de Tipex.
Ah oui.
En tout cas, c'est passionnant. Merci David. Alors vraiment, ça, vous nous replongez dans mon enfance au lycée Carnot. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Et maintenant, Stéphane, on a faim. On prendrait bien une petite gourmandise.
Oui, sauf vous, puisque vous n'aimez pas les cannelés. Oui. Laissez-en pour les autres.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Il se spécialise pendant que Castello Lopez agite frénétiquement son Tipex. C'est le bruit que vous entendez bizarre et qui peut... Voilà, vous avez pu avoir peur, je tenais à vous rassurer, c'est juste du Tipex qu'il agite. Il se spécialise dans les desserts que je déteste. Après la tarte au citron meringuée, Olivier Pouls nous présente aujourd'hui l'histoire des cannelés, ces espèces de crêpes compactes et ratées, il faut bien le dire.
Bah, rien à voir. C'est un délicieux petit...
Des crêpes compactes.
Mais oui, elles sont compactes, c'est la même boucle, la pâte à crêpes.
Petit gâteau qui a... Oui. Quand c'est bien fait, ce qui est absolument génial, c'est que c'est vraiment croustillant à l'extérieur, ça doit croquer, puis c'est tout moelleux à l'intérieur. Alors, je vous le concède, c'est pas toujours bien réalisé.
C'est peut-être pour ça.
Et puis surtout, il faut les manger assez vite après la sortie du four pour garder justement ce côté très croustillant. Je vais vous donner la recette dans un instant, mais tout d'abord, je vais vous parler de l'histoire de ces petites spécialités de l'origine originaire de Gironde. que ça remonte au XVIe siècle. Ce sont probablement les sœurs du couvent des Annonciales qui avaient créé cette recette en utilisant les ressources du port de Bordeaux. Parce qu'à l'époque, le port de Bordeaux était l'un des ports principaux de France. On y trouvait plein de choses. On y trouvait notamment de la vanille, on y trouvait du rhum et on y trouvait beaucoup de farine. Et ce sont trois ingrédients qui sont importants dans la réalisation des cannelés. Et puis, il y a les œufs, évidemment. Et notamment, on utilise plus de jaune que de blanc. Et là aussi, il y a probablement une petite explication. À l'époque, dans les châteaux, qui produisent déjà du vin, évidemment, dans la région bordelaise, on utilise énormément de blancs d'œufs pour ce qu'on appelle coller les vins. C'est-à-dire qu'on prend les blancs d'œufs, on
donc
les...
il reste les jaunes, on sait pas comment
et faire. Et voilà, on les monte un peu en neige, on les met dans les fûts, et puis comme ils sont plus lourds que le vin, en descendant, ils ramassent les impuretés, c'est ce qu'on appelle le collage. Et donc, on se retrouve avec pas mal de jaunes dont on ne sait pas forcément que faire. Et donc, ces sœurs en récupéraient probablement une bonne partie pour faire cette recette, qui est donc basée sur des jaunes, de la vanille, du rhum, et puis il faut un petit peu de farine. Et un petit peu de beurre également. Et puis, il y a surtout le moule. Alors ça, on ne sait pas très bien
d'où ça vient cette forme.
Alors, cannelé, parce que probablement, il y avait une recette auparavant qui était une pâtisserie entourée d'une petite texture en canne. Vous voyez, la canne à sucre.
Oui.
Et ça servait de moule. Et donc, c'est peut-être de là que serait venu le nom.
Mais vous n'êtes pas sûr.
Mais non, parce qu'on ne sait pas exactement qui a inventé ce moule spécifique. Probablement au XVIIIe siècle, mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'il soit en cuivre. Ouais. On achète aujourd'hui des moules en silicone,
ça
en plastique, etc.
Oui. Les moules en cuivre, ça coûte 500 balles quand même.
Oui, mais Olivier n'a pas de problème. Il a hérité, il a aucun problème d'argent. Donc, si le moule doit être en cuivre, il est en cuivre.
Vous allez sur toutes les ventes aux enchères, ça coûte beaucoup moins cher parce que plus personne n'en veut parce qu'il faut les astiquer. Les
et
cuivres.
Oui. Ah oui. Il faut non seulement les astiquer, mais surtout, et dans la recette, il faut surtout bien les beurrer de manière à pouvoir décoller les cannelés. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde utilise ces moules en plastique, mais le cuivre est beaucoup plus conducteur, répartit mieux la chaleur, monte plus haut en température. Et si on veut vraiment avoir des cannelés ultra croustillants, il faut faire l'acquisition de ces petits moules. Alors, je vous donne la recette assez rapidement, c'est assez simple. Hein. 50 centilitres de lait entier, 25 grammes de beurre, une gousse de vanille dont on va récupérer les graines, 5 centilitres de rhum, 250 grammes de sucre, 125 grammes de farine, 2 œufs plus un jaune. Alors, on va faire fondre le beurre, on va rajouter le lait, la vanille, le rhum, on laisse infuser un tout petit peu pendant 15 minutes. À côté de ça, les œufs, on les bat avec le sucre, on mélange le tout en rajoutant la farine. Et puis surtout, très important, on va faire reposer le mélange au frigo pendant au moins 3-4 heures. On va le verser dans les petits moules qu'on va remettre une fois encore au frigo, parce que ce qui est important, c'est d'avoir un choc thermique fort pour la cuisson. Donc, c'est démarrage four extrêmement chaud, le maximum que peut vous donner
votre
four. C'est ce qu'il
a pour faire le croustillant.
Voilà, entre 250 270 degrés pour certains fours pendant 7-8 minutes et après on baisse la température du four à 180 et on les laisse encore pendant 45 minutes pour finir la cuisson. Et ensuite vous les démoulez et vous avez cette parfaite texture et je ne désespère pas, mon cher Mathieu, un jour de vous convaincre que c'est quand même vraiment très bon.
Mais vous allez y parvenir très certainement, j'en ai rajouté.
Sinon, j'en ferai pour Stéphane et puis pour
David.
Et puis
merci beaucoup. Voilà, en tout cas, merci Olivier Pouls. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Le mot de la fin, c'est dans un instant avec vous Stéphane. À chaque jour, l'origine d'une expression. Aujourd'hui, on est le 11 novembre. Forcément, on s'interroge d'où vient le mot poilu.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
De Saint-Malo à Bangkok, de Buenos Aires à Calcutta, chaque jour vers 6h10, le monde s'arrête pour écouter religieusement l'apôtre du Larousse, l'ange Gabriel du Bécherel, le messie des déserts d'Angame Vert. Stéphane Bern, vous avez le mot de la fin, l'histoire d'une expression. Oui. Nous sommes le 11 novembre, Stéphane.
Oui, on parlera du décalage horaire quand même, parce que Calcutta...
Les poilus.
11 novembre oblige. Posons-nous la question suivante. Pourquoi les appelait-on les poilus?
Mais est-ce que c'était vraiment la peine de faire une chronique? On les appelle les poilus parce qu'ils ne devaient pas avoir de rasoir, ils étaient dans les tranchées, et donc voilà, il y avait les poils qui poussaient.
Un problème d'hygiène, c'est ça?
Ben oui.
Eh ben, halte aux idées reçues, Mathieu. D'abord, sachez que durant la Première Guerre mondiale, personne n'appelait les poilus les poilus. Ah, eux-mêmes se surnommaient les hommes, pas les poilus. Un poilu, à l'époque, et même bien avant, était synonyme d'un homme courageux. Par exemple, Molière, dans Les Précieuses Ridicules, utilise l'expression « être un brave à trois poils ». Dans un contexte plus guerrier, l'explication peut-être lu dans le livre « L'argot de la guerre » d'Albert Doza. Il est écrit, je cite, « Avant d'être le soldat de la Marne, le poilu est le grognard d'Austerlitz. Ce n'est pas l'homme à la barbe inculte qui n'a pas le temps de se raser, ce serait trop pittoresque, c'est beaucoup mieux. C'est l'homme qui a du poil au bon endroit et pas dans la main. » Et c'est vrai que si, au début de la Première Guerre mondiale, les combattants français ont pu laisser aller leur pilosité, l'arrivée des premiers gaz a obligé les soldats à tout raser pour que les masques soient efficaces. Poilus ou pas, ayons en tout cas, en ce jour, une pensée émue et respectueuse pour ces combattants, ainsi que pour Lazare Ponticelli, qui fut le dernier poilu décédé en 2008 à 110 ans, un poilu issu d'une famille de travailleurs immigrés italiens, et ça, c'est un joli symbole.
C'est un numéro absolument scandaleux d'Historiquement Vôtre qui se termine, et ce n'est pas plus mal comme ça. Stéphane m'a mis sous les yeux, mes yeux chastes et purs d'enfant de cœur presbytérien, l'image d'une femme écartant les cuisses sous prétexte de révéler l'origine du monde. Il a essayé de m'inciter à aller cracher sur des tombes. Tout ça n'est pas très catholique, Stéphane, et le pire, c'est que je sens que vous y avez pris du plaisir.
Oui, toujours à vous choquer, évidemment. Mais vous voyez, ce qui choque un temps ne choque plus quelques années après. Regardez l'origine du monde, bon, ça peut choquer. Moi, ce qui m'amuse, c'est de penser que c'était dans la collection d'un collectionneur ottoman.
Oui, donc, c'est vrai. Ça manque pas de sel.
Ça manque pas de sel, monsieur Khalil Bey, voilà, qui avait un harem et qui collectionnait ce genre de choses.
Et puis Boris Vian.
Il suffit d'attendre. Et Boris Vian,
il suffit d'attendre. Aujourd'hui.
Exactement.
Qu'est-ce qui nous attend demain, Stéphane ? Une confession, peut-être déjà, mais encore.
Parlez-moi de votre mère.
Mais laissez ma mère tranquille, qu'est-ce que vous voulez savoir ?
Demain, on parle des relations mère-fils dans l'histoire. On réunit trois fils à maman. Trois fils, Saint-Louis, Charles de Sévigné et Sylvester Stallone, accompagnés de leur maman. Relations parfois compliquées, hein. Blanche de Castille, Madame de Sévigné et Jackie Stallone. Dans l'ordre, hein, évidemment, faut pas les mélanger.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.